semaine d'actualité, Chantal Leroux.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour revivre ensemble les temps forts de la semaine en France, en Afrique et dans le monde. Nous irons de Paris à Tbilissi, de Madrid à Dakar et pour commenter cette actualité, nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Glucksmann. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste et vous venez de publier chez Alary Éditions Les enfants du vide, de l'impasse individualiste au réveil citoyen. Dans ce livre sorti juste avant l'émergence des gilets jaunes, vous écrivez « Le statu quo est un intenable. Est-ce que le militant engagé que vous êtes se sent un peu prophète aujourd'hui ?
Ah non, prophète, jamais, même si dans le livre, d'ailleurs, je parle spécifiquement de la taxe diesel et du fait de faire peser la transformation écologique sur le consommateur uniquement, et à quel point c'est injuste et ça conduirait nécessairement à des fractures sociales et à une explosion de colère sociale. Mais prophète, non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui avaient anticipé ça. Vous savez, il y avait même un ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron qui avait dit pendant tout l'été au président que faire cette taxe sur le diesel dans le cadre d'une politique fiscale injuste et sans matelas social pour l'accompagner, ça conduirait à la révolte. C'est Nicolas Hulot. Et Nicolas Hulot n'a pas été entendu. Le chef du gouvernement et le président de la République n'ont pas du tout anticipé la colère sociale. Et donc, c'était pas une question d'être prophète ou pas, c'est une question d'être lucide. Ça fait des années qu'on sent cette colère sociale monter. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est pas tellement qu'il y ait eu des prophètes, c'est qu'il y ait eu un président qui n'ait absolument pas compris la nature de la crise que son pays traversait.
Mais est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur du mouvement qui échappe à tout contrôle ? Est-ce que vous vous attendiez à une telle explosion de colère, de ressentiment accumulé ?
On savait que la colère était là. Après, je pense que personne n'avait anticipé la force et la forme du mouvement des Gilets jaunes. Et donc, il y a un phénomène qui est commun à tous, de stupéfaction. Et en plus, d'inquiétude, de questionnement. Vers où ça va ? C'est-à-dire que on a un président du « et en même temps » qui doit aujourd'hui faire face à une contestation qui est elle-même du « et en même temps ». Il y a de tout, en réalité, dans cette révolte. Il y a « en même temps » des mesures sociales qui sont demandées et une révolte contre les taxes. En même temps, un élan de solidarité et des réflexes, parfois, de repli sur soi et de chasse aux migrants. Et donc, il y a de tout. Et on ne sait pas dans quel sens ça va aller. Et le risque, quand il y a quelque chose qui est aussi polymorphe, hétéroclite, eh bien, c'est que les forces politiques et idéologiques les plus structurées, les plus organisées, en bénéficient. Et aujourd'hui, force est de constater que le risque existe d'une issue d'extrême droite à cette colère et à ce chaos. Et ce qui est sidérant, en fait, c'est la fragilité, l'impression comme ça de fin de règne, un an et demi après l'élection et l'intronisation d'un nouveau prince. C'est ça qui est aussi sidérant. C'est-à-dire que non seulement on n'avait pas prévu les gilets jaunes, mais on n'avait pas prévu non plus la faiblesse d'Emmanuel Macron.
On va reparler dans quelques minutes des gilets jaunes. Je reviens à votre livre, Les enfants du vide. Qui sont les enfants du vide ?
Bah, c'est nous, c'est moi aussi. C'est une génération qui est née dans un monde où on a expliqué que les idéologies, que les structures collectives, que les horizons communs étaient dépassés et n'existaient plus. Vous savez, moi, mes parents, ils sont nés dans un univers où tout était saturé de sens, de dogmes, de structures verticales, où l'individu, pour pouvoir vivre dignement et librement, devait s'émanciper de mythes collectifs. Si on naissait dans une famille plutôt de gauche, on devait s'émanciper des mythes révolutionnaires, des mythes marxiste-léniniste. Si on naissait dans une famille de droite, on devait s'émanciper des structures patriarcales, de l'Église ou de la nation. Et l'enjeu, c'était de briser des chaînes. Eh bien, les chaînes ont été brisées. Et aujourd'hui, ceux qui naissent et ceux qui sont nés et qui s'éveillent au monde, eh bien, ils sont entourés non pas par un trop-plein de sens, mais par un vide. Et c'est ce vide-là que j'ai essayé d'explorer. J'ai essayé de comprendre comment la société de solitude dans laquelle on vit, eh bien, pouvait conduire au despotisme et pouvait conduire à la remise en cause de la démocratie. Et donc, aller au cœur, en fait, de la crise des démocraties libérales occidentales, ça suppose de revisiter notre propre logiciel philosophique, parce qu'en fait, tout le monde s'est planté. C'est pas la droite ou la gauche, c'est pas simplement Reagan et Thatcher, même si le néolibéralisme a une responsabilité immense dans la crise qu'on est en train de vivre. C'est aussi le logiciel progressiste qui s'est complètement trompé sur les évolutions de la société, et une gauche qui n'a plus grand-chose à dire du monde.
Alors, vous racontez que c'est une rencontre qui a été le point de départ de votre livre, une discussion en Lorraine, en mars 2017, avec un retraité de la sidérurgie.
Oui, c'était une rencontre assez incroyable. Il y a un vieil homme à la fin d'une conférence qui vient me voir, qui me demande quelques instants, alors on s'assoit, on discute, et il me dit « mais j'ai un problème immense, c'est que je ne comprends plus mes deux fils ». Moi-même, je suis un ancien militant de la SFIO, puis du PS, j'ai milité dans les syndicats, j'ai toujours été à l'avant-garde des combats sociaux et sociétaux, et là, j'ai deux enfants qui votent Front National. Alors, ils sont pas des bourgeois, certes, mais ils ont une maison, ils ont une vie, ils sont pas en train de mourir de faim ou de soif, et pourtant, ils ont peur de tout, du monde, des Arabes, de l'avenir, des migrants, de l'Europe, de tout, et ils votent Front National. Pourquoi ? Et alors moi, j'étais bien ennuyé, j'avais aucune réponse à lui apporter, donc j'ai fait ce qu'on apprend en cours de philosophie, c'est-à-dire que j'ai retourné une question à une question, et finalement, on a discuté, et à la fin, c'est lui qui m'a livré la clé qui était le début du livre. Il m'a dit, oui, ils sont beaucoup plus riches que je ne l'étais à leur âge, mais moi, j'avais le syndicat, j'avais le parti, et eux, ils n'ont rien, ils sont seuls. Donc oui, ils sont plus riches, mais ils sont surtout affreusement plus seuls. Et c'est cette solitude-là, en fait, qui est le point de départ du livre. Est-ce qu'on peut fonder une société, une république, une démocratie, sur l'individualisme, sur la solitude de l'individu occidental contemporain? Et là-dessus, j'invente pas le fil à couper le beurre, enfin, déjà Tocqueville disait que le terreau du despotisme, eh bien, c'est la multitude des solitudes individuelles. C'est quand une société n'a plus de structure collective qu'en fait le champ est libéré pour l'émergence du despote.
Et vous donnez des exemples de ce que produit l'individualisation de la société. Alors ça va des coachs en développement personnel aux colonies de vacances qui n'ont plus la cote. Ça peut paraître anecdotique, mais ça va bien au-delà.
Oui, bien sûr. En fait, tout notre mode de vie, c'est pour dire que c'est pas simplement des grandes théories sociologiques ou sociales. Tous nos modes de vie sont impactés par ce triomphe de l'individualisme. Et en fait, on n'arrive plus à s'insérer dans des structures collectives. Alors, la crise des colonies de vacances est extrêmement marquante. Les effectifs ont été divisés par deux en 20 ans. Mais on peut aussi voir dans le cinéma.
Vous prenez donc deux films, Spartacus et Gladiator.
Oui, il y a deux films qui racontent en gros la même histoire, c'est-à-dire la révolte des esclaves romains contre l'Empire et l'ordre social inique de l'Empire. Et alors, Stanley Kubrick, quand il filme Spartacus, eh bien, il filme une révolte collective, une révolution, un élan commun pour réformer et changer l'ordre des choses. Et 40 ans plus tard, quand... Ridley Scott, qui est aussi un grand réalisateur, donc c'est pas une question de niveau de réalisation, met en scène la même histoire. Et bien, il raconte l'histoire d'un homme, un général, Maximus, qui a été sauvagement trahi par l'empereur et qui du coup va faire une revanche personnelle. Et tout ça va se finir par le combat dans l'arène du Colisée en un contre un, en face à face entre le mauvais empereur et le gentil esclave révolté. Et finalement, tout est individualisé, même la révolte sociale. Mais c'est le propre aussi des médias, des journalistes. Aujourd'hui, on veut tout raconter sous le prisme d'une histoire individuelle. Parce qu'on se dit qu'il n'y a que ça qui fonctionne, qu'il faut que l'individu, on lui tende un miroir.
S'identifier.
En permanence. Et alors, moi, ce que j'ai essayé d'imaginer, c'est comment, par exemple, un producteur de Hollywood ou même français, ou un patron de presse ou un rédacteur en chef d'un média français... recevant la lettre des 15 000 scientifiques qui alertent le monde sur le 13 novembre 2017 sur le risque de l'écroulement de notre civilisation et de la fin justement du monde, en disant demain il sera trop tard, que ces 15 000 scientifiques alertant l'humanité sur les risques du réchauffement climatique, eh bien ce producteur ou ce rédacteur en chef recevant ce papier dirait « mais c'est trop général ». Il n'y a pas d'individu, il n'y a pas d'histoire individuelle, on ne peut pas s'identifier, la fin est trop abrupte. Donc racontez-moi une histoire autrement. Eh bien, c'est ça qui est le problème fondamental, à mon avis, de notre rapport au monde aujourd'hui, c'est que tout est individuel. Il n'y a plus de place pour les idées générales, les idées collectives. Or, la politique, c'est pas la somme des histoires individuelles, c'est quelque chose d'autre. Et le citoyen, c'est quelque chose d'autre que le prolongement de l'individu. C'est quelqu'un qui arrive à penser en termes universels. Et c'est ça qu'on a perdu.
Macron casse les libertés, Macron casse tout. Macron casse l'écologie, Macron casse tout. Macron casse les ZAD, Macron casse tout. Macron casse les syndicats, Macron casse tout. Macron casse les APL, Macron casse tout. Macron casse l'ISF, Macron casse tout.
Un détournement de Me Gusta Tu de Manu Chao, signé Thomas Gaétan. Raphaël Glucksmann, la France vient de connaître une semaine folle après un samedi de manifestations à l'appel des Gilets jaunes, manifestations qui ont dégénéré en scène de guérilla urbaine à Paris, sur les Champs-Élysées et la place de l'Étoile notamment. Bilan, plus de 130 blessés, dont 20 membres des forces de l'ordre, quelques 400 personnes interpellées. Retour sur ce samedi noir avec David Bachet.
Les citoyens, pas pour casser les mouvements, non ?
Et si vous êtes des casseurs, cassez-vous, hein !
Juste sous l'arc de triomphe, des gilets jaunes pacifistes s'assoient devant la tombe du soldat inconnu pour la protéger des casseurs. Cette scène surréaliste est à l'image de ce qui s'est passé toute la journée autour de la place de l'Étoile. Les manifestants les plus violents brûlent des voitures, jettent des grilles d'arbres et des barrières. Certains sont équipés de barres de métal ou de fumigène. Mais les CRS n'ont pas attendu les violences pour utiliser abondamment leurs bombes lacrymogènes et leurs canons à eau, comme l'explique Bruno Dubreuil, gilet jaune venu de Seine-et-Marne.
On est arrivé très vite et on a vu et on a entendu les gaz lacrymogènes nous tomber sur le coin de la gueule. Alors moi j'étais un petit peu plus loin parce que j'ai pas de masque à gaz, j'ai rien. Mais vous voyez, ça fume de partout. Ils nous gazent, ils nous empêchent de passer.
Les CRS interpellent les casseurs. Ils empêchent également les manifestants pacifistes de se rassembler. Les groupes épars vont d'un point à un autre au gré des nuages de fumée, des heures durant, comme Louisa.
C'est quand même compliqué parce qu'il y a plein d'endroits où on ne peut pas aller. Moi, j'ai eu des gaz lacrymaux dans la figure, c'est très compliqué. Hein. On n'est pas habitué, en plus, je ne manifeste jamais. Là, c'est la troisième fois. Mais vraiment, je ne lâcherai pas, quoi.
Les gilets jaunes protestent contre le coût trop élevé du carburant et contre une politique gouvernementale jugée inéquitable. Des revendications qui, sur les Champs-Élysées, aujourd'hui, se seront moins faites entendre que les détonations.
Mardi, première reculade du gouvernement. Le Premier ministre Édouard Philippe annonce un moratoire de 6 mois sur les hausses de carburant et le gel des tarifs du gaz et de l'électricité. Le gouvernement renonce également à durcir le contrôle technique des voitures. Insuffisant pour les gilets jaunes, trop peu, trop tard. Nombre d'entre eux appellent désormais à la démission d'Emmanuel Macron. Le mouvement se radicalise. La fronde gagne les lycéens. Les routiers et les agriculteurs envisagent de se joindre au mouvement. Le pouvoir est aux abois et la cacophonie s'installe. Exemple mardi soir avec ce coup de théâtre. L'Élysée désavoue Édouard Philippe et fait savoir qu'il n'est plus question de suspension ou de gel des taxes. Elles sont purement et simplement abandonnées. Raphaël Glucksmann, aujourd'hui les revendications des gilets jaunes se sont multipliées, elles sont très variées, mais elles ont une constante. Tous veulent gagner un salaire décent qui permette de vivre et non pas de survivre. Comment le gouvernement va-t-il pouvoir répondre à cette aspiration, on ne peut plus légitime.
Eh bien, en faisant l'inverse de ce qu'il a promis, c'est-à-dire en changeant de cap, parce que il répète partout, et le Premier ministre et le Président, qu'ils ne changeront pas de cap. Il faut changer de cap. Quand le cap est mauvais, il faut savoir changer de cap. On peut pas, dans un pays qui connaît une crise sociale aussi grave, demeurer sur les mêmes lignes, c'est-à-dire d'un côté la suppression de l'impôt sur la fortune, la suppression partielle de l'ISF, et de l'autre, continuer à pressuriser les classes moyennes. C'est impossible, en fait. C'est inadmissible et ce n'est pas admis. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est que il y a une colère sociale absolue. Et cette colère sociale, elle se double d'une crise de régime. Comme vous l'avez dit, c'est sidérant à quelle rapidité le pouvoir est apparu friable et faible. Et donc, il y a besoin d'engager des discussions, un, sur les raisons de la colère sociale et donc de prendre des mesures sociales, et de l'autre, il y a besoin de discuter des évolutions institutionnelles nécessaires. Parce que ce n'est pas possible, en fait, qu'un parti qui ait remporté 25% des voix au premier tour des présidentielles sur son programme, un homme, et ensuite 80% des députés et 100% des pouvoirs. Il y a le sentiment, et ça les gilets jaunes le répètent partout, qu'ils ne seront pas représentés. Il y a le sentiment diffus en France que la représentation ne fait plus représentation. Et que donc il va falloir des évolutions institutionnelles.
est antipathique. Hein. Jupiter, c'est un roi, on a l'impression qu'il a un peu mis en place, moi, j'appelle ça une secte, mais les bouffons du roi, je vais parler comme ça.
Il a été élu, mais bon, c'est pas un roi non plus. Hein. Moins d'arrogance, ce serait pas mal. Ouais. Surtout vis-à-vis des retraités et des petites personnes.
Moi, ce que j'attends du président, c'est qu'il entende son peuple, parce qu'il ne faut pas qu'il oublie que s'il en est là où il en est, c'est grâce à son peuple. Et de ne pas l'entendre, c'est comme un peu lui cracher au visage, quelque part.
Des paroles de Gilets jaunes recueillies par Pauline Glaise. On l'entend, hein, et vous venez de le dire, Emmanuel Macron cristallise la colère des manifestants. Aujourd'hui, il paye son arrogance, la suppression de l'impôt sur la fortune, vous en avez parlé à l'instant, ou son mensonge pendant sa campagne. Il a promis un nouveau monde, et ce nouveau monde n'est pas là.
Mais il paye tout, il paye tout. C'est la conjugaison de l'arrogance, de l'injustice et d'une promesse non tenue. Il a promis un nouveau monde, en fait, il apparaît comme étant, à mon avis, le dernier avatar de l'ancien monde. C'est-à-dire que c'est loin d'être une aube, c'est un crépuscule. C'est-à-dire qu'il pousse jusqu'au bout les logiques des élites françaises, les logiques de la Ve République, la logique monarchique de notre République. Et je pense que Emmanuel Macron sera le dernier président de la Ve République, qu'ensuite il faudra passer à autre chose. Mais le problème qui se pose à nous tous, et c'est pour ça que dire Macron démission, ça ne suffit pas, et c'est même peut-être dangereux, c'est qu'est-ce qui vient après? Quelle est cette nouveauté, cet inconnu qui va surgir? Et ça, c'est un enjeu extrêmement important, et le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que les forces progressistes ne sont pas en position dominante pour proposer une alternative. C'est ça qui m'inquiète, moi, aujourd'hui, c'est quelle réponse à cette crise. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on sait tous que Emmanuel Macron, ce sera une parenthèse. Désormais, c'est acté. Mais alors, quoi après ?
Alors, ce samedi, c'est l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes. Journée à haut risque. Et si la majorité des Gilets jaunes se déclare opposée à la violence, certains sont plus ambigus.
Il ne faut pas se voiler la face. Il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Il faut dire la vérité. Je suis contre le fait qu'il y ait la casse. Mais si, par exemple, il n'y a pas un peu plus fort, entre guillemets, eh ben, ils resteront tous ici, et puis ils feront partie du paysage, et puis ils auront les racines qui poussent. Moi, je dis honte à nous, parce qu'on a attendu combien d'années pour se réveiller ? 30 ans ? Et nos anciens qui sont battus pour les droits qu'on a, on croit que ça arrivait comme ça ?
Raphaël Glucksmann, l'exécutif dit redouter un déferlement de violence. Aujourd'hui, une alliance entre l'ultra-droite, l'ultra-gauche, les jeunes de banlieue, plus des gilets jaunes radicalisés. Est-ce que c'est une bonne stratégie pour le gouvernement de jouer la dramatisation ?
Là, c'est vrai qu'il y a eu des choses dramatiques. C'est-à-dire qu'il y a eu de la casse, il y a eu des violences, et elles sont inadmissibles. Il y a eu des violences d'ailleurs aussi en réaction des forces de l'ordre, qui sont tout aussi inadmissibles. Et donc, il y a une spirale de la violence qu'il faut briser. Par contre, quand l'Élysée envoie un communiqué de presse pour dire que des milliers de gens viennent à Paris armés pour tuer, là, je pense que soit ils cèdent à la panique, soit ils jouent la stratégie de la tension. Et dans les deux cas, c'est extrêmement inquiétant. Donc, il y a un moment où, effectivement, il faut appeler au calme dans les revendications, casser des voitures et s'attaquer violemment aux forces de l'ordre, c'est pas la solution. Et il faut que la politique reprenne ses droits. Mais pour cela, il faut que le président lui-même arrête d'être cet enfant qui joue avec des allumettes sur un baril de poudre, qu'il fasse un discours montrant qu'il a compris ce qui se passe et qu'il a arrêté d'être sourd aux revendications sociales d'une grande partie de sa population.
Sept jours dans le monde. Nous sommes toujours en compagnie de l'essayiste Raphaël Glucksmann. Je vous propose, Raphaël, de partir pour Tbilissi, que vous connaissez bien. Tbilissi, capitale de la Géorgie, où quelques milliers de sympathisants de l'opposition ont protesté dimanche contre la victoire, 4 jours plus tôt, de Salomé Zourabichvili à la présidentielle. Une victoire qu'ils estiment volée. Envoyé spécial de RFI à Tbilissi, Régis Janté.
L'ambiance était morose ce dimanche après-midi devant l'ancien Parlement, lieu de tous les combats politiques depuis 30 ans dans l'ex-République soviétique. Devant 5000 manifestants, les leaders du Mouvement National Uni, qui a dirigé le pays de 2004 à 2012, ont dénoncé les centaines de milliers de voix volées. Petite moustache et lunettes d'intellectuel, Grigol Vachadze, candidat qui a récolté 40% des suffrages au second tour, a promis de lutter contre cette injustice par des moyens démocratiques. Applaudissements polis d'une foule comme abattue et qui s'est réveillé lorsqu'est apparu sur écran géant son vrai leader, l'ancien président Mikhaïl Saakachvili, depuis son exil aux Pays-Bas.
Bonjour, je veux saluer les vétérans de notre lutte et les gens qui sont venus ici aujourd'hui.
Accusé d'abus de pouvoir, M. Saakachvili n'est pas rentré dans son pays depuis 2013. Après cette élection présidentielle, l'opposition sent qu'elle pourrait séduire à nouveau les 3,7 millions de Géorgiens, mais elle demeure divisée quant à sa façon de se recomposer, avec ou sans Mikhaïl Saakachvili, lui qui attire autant de partisans qu'il en repousse.
Raphaël Glucksmann, vous avez été pendant 3 ans conseiller de l'ex-président Mikhaïl Saakachvili qui voulait bâtir une nouvelle Géorgie pro-européenne. Le rêve s'est évanoui en 2012 lorsque son parti a été battu sévèrement aux législatives. Quelle leçon avez-vous tiré de cette expérience ?
Une leçon immense. Déjà, une leçon d'humilité absolue. Alors, c'était un moment absolument fascinant, mais il y avait des résultats très tangibles, des politiques de réforme qui ont été menées en Géorgie, et pourtant l'opposition a gagné les élections sur une logique qui était simple, qui était celle de, d'un côté, la défense des plus pauvres, et de l'autre, une logique identitaire. Et moi, c'était la première fois, en fait, que j'étais confronté à la puissance du message identitaire. Un des slogans principaux, c'était « Rendez-nous l'identité géorgienne ». Et nous, on se demandait, mais qu'est-ce que vient faire un thème identitaire dans la politique ? Et en réalité, on a compris à quel point, allié avec l'Église, ça pouvait faire un mouvement extrêmement puissant en politique, la thématique identitaire. Et on le voit aujourd'hui absolument partout dans les sociétés européennes. Sur ces élections, il faut quand même comprendre, à la fois celle de 2012 et l'élection actuelle, qu'il y a un problème essentiel en Géorgie. Vous avez un milliardaire, Bidzina Ivanishvili, dont la fortune personnelle est plus importante que le budget de l'État. Donc comment vous faites pour faire un jeu politique démocratique quand une puissance sociale est à ce point démesurée par rapport à la richesse d'un pays ? Là, avant un deuxième tour d'élection présidentielle, pour faire gagner sa candidate, Salomé Zourabichvili, quand même, proposer de racheter 500 000 prêts, ça veut dire que si c'est pas un achat de vote direct, c'est de l'achat de l'élection dans son ensemble. On change complètement la nature du jeu, et ça sur sa fortune personnelle. Il a une telle fortune qu'une simple promesse de lui, eh bien, correspond à 10 ou 15 budgets sociaux qu'un État peut décider. Et donc, il y a une structure qui à la fois est formellement démocratique et en même temps complètement corrompue par l'oligarque le plus puissant de la région, mais qui est un oligarque extrêmement puissant à l'échelle de la Russie. Mais en Géorgie, ça devient complètement démesuré.
On va partir maintenant pour l'Andalousie avec ce séisme électoral. Bastion des socialistes depuis 37 ans, la région la plus peuplée d'Espagne a vu l'extrême droite réaliser une percée spectaculaire dimanche lors des législatives anticipées. Le parti Vox va occuper 12 sièges au Parlement andalou. À Séville, pour RFI, François Musso.
Très timide à l'échelle espagnole, quasi inexistante jusqu'alors en Andalousie, voici que l'extrême droite fait une irruption impressionnante en passant de 0 à 12 sièges. Le parti Vox préconise une déportation des immigrés soupçonnés de délit, la construction d'un mur à Ceuta et à Melilla ou encore l'interdiction de l'enseignement de l'islam. Certes, l'extrême droite est la cinquième force, mais les deux partis libéraux, le Parti Populaire et Ciudadanos, en plein essor aussi, devront faire alliance avec elle s'ils veulent obtenir la majorité absolue au Parlement andalou et donc gouverner. Cela va être un véritable dilemme. Et c'est d'ailleurs désormais le grand argument de la leader socialiste Susana Díaz, qui appelle, je cite, à une alliance entre partis modérés pour tenir le parti Vox à distance. Ce qui est certain, c'est que ce scrutin constitue une gifle historique pour les socialistes, des socialistes qui avaient fait de l'Andalousie leur place forte pendant près de 4 décennies. Reste à savoir si, oui ou non, on assiste à un avant-goût des élections générales qui auront certainement lieu l'an prochain.
Raphaël Glucksmann, l'Amérique de Trump, la Hongrie de Viktor Orban, l'Italie de Matteo Salvini, le Brésil de Jair Bolsonaro et maintenant l'Espagne avec cette percée du parti Vox. Comment arrêter cette contagion populiste ou nationale populiste ?
Alors l'Espagne, c'était quand même la dernière exception. C'était le pays de par son histoire franquiste récente, qui avait échappé à ça.
Et qui en était fier.
Et voilà, et qui en était fier, et c'est plus le cas, ça y est, ça vient aussi en Espagne. Ce qui veut dire que c'est une crise globale, qu'il n'y a pas des raisons locales, qu'il y a une raison systémique. Et la raison systémique, c'est la faillite de la démocratie libérale occidentale à produire le moindre horizon politique et collectif. Et donc, il va falloir réellement, pour répondre à cette vague nationale populiste, il va falloir réellement un nouveau contrat social. Il va falloir, eh bien, faire ce que Roosevelt a fait en son temps aux États-Unis. S'il n'y a pas eu de fascisme aux États-Unis dans les années 30, c'est pas parce que les Américains étaient pas racistes, ils étaient plus racistes que les Européens. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de crise économique et sociale aux États-Unis, elle était encore plus violente aux États-Unis, cette crise économique et sociale, qu'en Europe. C'est parce qu'il y a eu un dirigeant qui a proposé un nouveau sens à la démocratie américaine, qui a proposé un nouvel horizon collectif, qui a montré que la politique pouvait transformer les institutions sociales et inverser les structures de domination. Donc c'est ça qu'il va falloir faire. Ça sert à rien en fait de se lever et de dire no pasaran, no pasaran, no pasaran et d'administrer des leçons à la terre entière. C'est contre-productif. La seule manière de répondre à cette vague-là, c'est de montrer qu'une politique progressiste peut transformer la société. Et ça, force est de constater, on est encore loin du compte.
Alors vous donnez des pistes très concrètes pour ce nouveau contrat social, la démocratie participative par exemple, avec ce qui s'est passé dans la ville de Kingersheim, dans la banlieue de Mulhouse. Vous en parlez comme de l'un des plus étonnants laboratoires civiques de l'Hexagone.
Oui, à Kingersheim, qui est une ville d'ouvriers et d'employés de la banlieue de Mulhouse, le maire, Josh Spiegel, ancien professeur d'éducation physique, eh bien, a décidé de rendre le pouvoir aux citoyens en les impliquant dans le gouvernement de la cité. Mais pas seulement par le vote, en les faisant participer via un système de tirage au sort à des conseils qui élaborent, décident et mènent jusqu'à leur terme les projets du gouvernement de la cité. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, c'est ce processus-là, eh bien, est un processus de transformation de soi. Et les gens redeviennent citoyens. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Il faut passer de ce statut de consommateur qui vote tous les 5 ans à un statut de citoyen actif. Et donc, quand le Brexit dit take back control, eh bien, il faut pas se moquer. Il faut effectivement give back control. Il faut effectivement redonner du pouvoir aux citoyens. Et donc, il y a comme ça, mais partout sur le territoire, eh bien, des initiatives de réinvention de la démocratie. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire, il y a un constat qui est extrêmement dramatique, voire tragique, mais il y a aussi partout, eh bien, de l'énergie, une volonté de réinventer la politique et la démocratie. Et c'est à partir de cette énergie-là, à partir de cette volonté-là, qu'il va falloir reconstruire un nouveau contrat social.
Vous faites une autre proposition. Les Gilets jaunes réclament la suppression du Sénat. Vous, vous proposez qu'il soit remplacé par un Sénat citoyen. Comment il fonctionnerait ?
Eh bien, en fait, il y a d'abord un constat. C'est-à-dire qu'en France, on a deux chambres qui sont toutes les deux représentatives des territoires, élus en fonction de zones territoriales, et qui font doublon. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'un surajout institutionnel. Et donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de transformer le Sénat en un espace d'investissement direct des citoyens, en passant outre le côté indirect de notre démocratie. Et ce Sénat citoyen, qui pourrait être tiré au sort et non pas élu, en fonction de critères géographiques et sociaux, pour être réellement représentatif de la population, eh bien, aurait une fonction de contrôle. Une fonction de contrôle de l'action de l'exécutif et une fonction de contrôle de l'action du législatif à l'Assemblée nationale. Et par ailleurs, et ça c'est une revendication des Gilets jaunes, il donnerait droit, il aurait le monopole de la légitimité pour déclencher des référendums en cas de blocage, soit entre l'Assemblée et l'exécutif, soit entre le Sénat et l'Assemblée. Et donc là, il y a un espace comme ça où il faut travailler justement à une forme de révolution dans l'approche qu'on a de la démocratie. Aujourd'hui, il faut répondre au désir autoritaire, c'est un paradoxe, mais je m'explique, par plus de démocratie. Parce que finalement, c'est seulement en impliquant les citoyens dans le gouvernement de la cité qu'on pourra rendre la démocratie respectable à leurs yeux. Aujourd'hui, il y a une démocratie, certes, mais le rapport qu'on a en tant que citoyen à la démocratie représentative, c'est un rapport qu'on aurait à une structure quasi oligarchique. On a l'impression que c'est pas pour nous, que ça ne nous parle pas et que ça ne nous représente pas. C'est ça, quand on va sur un barrage, c'est ce qu'ils disent. Et donc, il faut prendre ça au sérieux, mais dire, attention, c'est pas juste exprimer son désir, la démocratie de participation. C'est en réalité accepter de donner de son temps, de son énergie à la cause commune, accepter de se transformer soi-même en citoyen, c'est quelque chose qui requiert des efforts.
Alors la COP 24 se tient depuis dimanche à Katowice en Pologne. Mardi, les ONG ont appelé les gouvernements à garder les énergies fossiles sous terre. Un message notamment destiné aux pays hôtes, dont près de 80% de l'électricité est produite à partir du charbon. Le président polonais Andrzej Duda est resté imperturbable. Il a affirmé « Tant que je serai président, personne n'assassinera l'industrie minière ». À Varsovie pour RFI, Damien Simonard.
Le gouvernement polonais n'a pas choisi Katowice au hasard pour l'organisation de la COP24. La ville est située au cœur du bassin minier de Silésie, d'où plusieurs millions de tonnes de charbon sont extraites chaque année. Hier, jour de la Sainte-Barbe, fête annuelle des mineurs, Andrzej Duda a lancé devant eux que tant qu'il sera président, il ne permettra pas qu'on assassine l'industrie minière. Sur la COP24, il déclare, je cite, « Nous sommes ses organisateurs, mais nous y sommes aussi pour dire la vérité, sans tenir compte du politiquement correct, ce dernier étant très souvent dictée par des intérêts étrangers et non polonais », fin de citation. Dans le même temps, à la COP24, son premier ministre, Mateusz Morawiecki, tenait un discours plus policé, affirmant que la Pologne comptait diminuer sa dépendance au charbon et miser sur les énergies renouvelables telles que les éoliennes en mer, le photovoltaïque ou encore l'énergie atomique. Une perspective toutefois très lointaine, les premières centrales nucléaires étant envisagées en Pologne pour la décennie 2030.
Raphaël Glucksmann, l'urgence écologique, c'est la cause qui vous tient peut-être le plus à cœur, parce que dans 12 ans, vous en parliez tout à l'heure, il sera trop tard.
Ouais, le GIEC nous l'annonce. Dans 12 ans, c'est la bascule en 2030 dans la catastrophe, dans l'irréversibilité de la catastrophe climatique. Et donc, si on veut transformer nos sociétés avant qu'il ne soit trop tard, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Si on ne prend pas maintenant les mesures qu'il faut, eh bien, on n'y arrivera pas. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que tout le monde a célébré la COP 21, mais en réalité, personne ne respecte ses propres engagements pris à Paris. Et donc, on est dans une situation où, de facto, on se retrouve tous comme étant climato-sceptiques. Pas seulement Donald Trump. Aussi les signataires, aussi ceux qui font des hashtags « Make the planet great again ». Et donc, on a comme ça une situation complètement démentielle où les scientifiques s'énervent et nous disent « Attention, on va dans le mur » et où les politiques restent très calmes et ne changent pas d'orientation. Alors même que c'est possible.
Oui, vous expliquez dans votre livre que c'est une question d'audace, de courage politique. Les dirigeants peuvent changer le cours des choses s'ils le veulent vraiment. Et vous prenez l'exemple de l'esclavage.
Oui, parce que quand on a décidé d'abolir l'esclavage... Il y avait tout un pan de l'économie qui dépendait de ça, mais simplement au nom d'un principe, à un moment, qui est l'égalité des hommes et l'impossibilité morale, politique, éthique de réduire des êtres humains en esclavage, eh bien on a cassé des pans entiers de l'économie et il y a eu une reconversion de l'économie. Et la politique peut décider de grandes orientations qui transforment l'économie. Et c'est simplement le renoncement en fait qui est fascinant. C'est-à-dire qu'on sait, on sait tous... Enfin, sauf ceux qui ne croient pas les scientifiques, mais sinon on sait tous qu'on va dans le mur. Et même les politiques qui nous dirigent le savent. Et pourtant, ils ne prennent pas la décision d'aller à l'encontre des grands intérêts structurés qui sont liés aux énergies fossiles ou aux industries polluantes. Vous savez, aujourd'hui, on nous exhorte à utiliser moins d'eau sous la douche, à faire du tri sélectif, à faire du compost. Tout ça, c'est très important. Que chacun change son comportement individuel. Mais en fin de compte, si les 5 plus grandes compagnies pétrolières, aujourd'hui, respectent leur cahier des charges, en termes d'extraction, c'est déjà fini avec la COP 21 et les engagements de Paris. C'est déjà fini. Donc, il y a un moment, il y a seulement la décision politique, de faire que ces compagnies laissent les énergies fossiles dans le sol, ne respectent pas leur cahier des charges, mais respectent le cahier des charges que l'humanité elle-même s'est fixé. Et il n'y a que la politique, la puissance publique qui peut le faire. Et en plus, c'est un horizon qui va redonner de la légitimité, l'écologie politique, si on la prend au sérieux, à l'existence même d'une puissance publique. C'est ce qui va relégitimer l'intérêt général, la volonté générale par rapport aux intérêts particuliers. C'est ce qui va nous permettre de mener une transformation aussi sociale et démocratique de nos sociétés. Et donc, simplement, il faut la concevoir dans son ensemble, l'écologie politique. C'est pas une série de taxes punitives. C'est un projet beaucoup plus global qui va bien au-delà de cette fiscalité punitive.
3 bols de riz par jour, Carlos Ghosn va devoir endurer ce régime spartiate quelques semaines encore. Les enquêteurs japonais ont découvert que l'ex-patron de Renault-Nissan aurait sous-déclaré ses revenus non plus sur 5 ans, mais sur 8 ans. RFI Tokyo, Frédéric Charles.
Carlos Ghosn passera sans doute les fêtes de fin d'année en prison. Il est en garde à vue depuis le 19 novembre pour avoir dissimulé aux autorités boursières japonaises la moitié de ses revenus sur 5 années, entre 2010 et 2015 pour un montant de 39 millions d'euros. Selon la presse, le ministère public de Tokyo s'apprête à procéder le 10 décembre à une nouvelle mise en détention de Carlos Ghosn pour avoir sous-déclaré ses revenus sur 3 autres années pour un montant de 31 millions d'euros. Le ministère public japonais pourrait étendre ses investigations à d'autres motifs, comme l'abus de biens sociaux. Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir ordonné l'achat par Nissan de somptueuses résidences à l'étranger pour son usage personnel. Si une nouvelle interpellation est lancée, Carlos Ghosn verrait sa garde à vue prolongée de 22 jours. Il risque de passer Noël en prison. Le patron français nie toute malversation.
Et Carlos Ghosn devrait être mis en examen lundi. Raphaël Glucksmann, est-ce qu'on peut dire que Carlos Ghosn, qui gagnait 45 000 euros par jour, est un symbole de l'explosion des inégalités dénoncées par les Gilets jaunes?
Oui, c'est aussi un symbole, enfin, s'il est réellement coupable de ce dont on l'accuse, de l'hubris absolument délirante, de la démesure de cette élite qui s'est complètement extraite, qui a fait sécession par rapport au reste de la société. L'explosion des inégalités, eh bien, ça a des conséquences sur le consensus autour des institutions démocratiques, sur le consensus autour de la question de l'impôt, le consentement à l'impôt. Je veux dire, on est dans un moment de notre histoire où quand on regarde les déclarations de personnes qui ne sont pourtant pas des bolcheviques, hein, comme Ford, eh bien, à son époque, eh bien, on a l'impression de lire des textes révolutionnaires. Quand il nous dit que, au-delà de 1 à 40, les écarts de salaire ne peuvent plus être supportés par une société normalement constituée, et qu'on voit qu'aujourd'hui, eh bien, les écarts ont été multipliés par 10, par 100, et cela même sans compter les dividendes, on se dit que on est, en fait, dans une forme de miracle, qu'il n'y ait pas eu une explosion plus tôt. Et donc, il y a un travail à faire pour ramener ces élites sécessionnistes dans le cadre commun de l'existence collective des peuples.
Et vous expliquez que cette explosion des inégalités fait reculer aussi donc la mixité sociale.
Bien sûr, alors là ça se traduit même géographiquement désormais. C'est-à-dire que les pauvres et les riches n'habitent même plus dans les mêmes villes. Auparavant, ils habitaient parfois même dans les mêmes quartiers, mais à des étages différents dans les immeubles, et donc ils pouvaient se retrouver à l'école. Mais là, aujourd'hui, ils n'habitent plus dans les mêmes villes. Les métropoles sont en train de se gentrifier à vitesse grand V, et du coup, l'école, qui était censée être un vecteur d'égalité sociale et de mixité, ne peut plus remplir sa mission, puisqu'ils ne peuvent plus aller dans les mêmes écoles. Et donc, on est dans un moment comme ça, où il n'y a plus d'institution sociale qui impose la mixité, et on aboutit au vivre séparé. Et dans le même temps, vous avez des leaders de gauche qui vont vous chanter le vivre ensemble, alors même que tout le monde vit séparé. Et ça décrédibilise le discours politique. Donc on a un problème là, fondamental, et il faut que la politique reprenne la main, que l'autorité reprenne la main, et qu'on puisse imposer des cadres et imposer à nouveau une forme de mixité sociale.
Sept jours en Afrique.
L'avenir du Sahara occidental a été discuté mercredi et jeudi à Genève, sous les auspices de l'ONU. Le Maroc et le Front Polisario, qui se disputent ce territoire depuis 1976, se sont assis à la table des négociations après 6 ans d'impasse. À leur côté, les pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie. Gaëlle Lalex a suivi la rencontre à Genève.
Leur engagement est ferme. Le Maroc et le Front Polisario participeront à un deuxième round de discussions durant le premier trimestre 2019. C'est la principale avancée de ces discussions, ou plutôt la seule, car les questions qui fâchent n'ont pas été abordées. Quid du partage des ressources naturelles? Rien sur les réfugiés sahraouis et surtout pas un mot sur le statut juridique du Sahara occidental. C'est au moment où les gages de bonne volonté ont été évoqués que les choses se sont tendues. Le Front Polisario a parlé de la libération des prisonniers politiques sahraouis, de la possibilité que des observateurs des droits de l'homme des Nations Unies se rendent au Sahara occidental, ou encore de la possibilité que le CICR procède à la recherche des personnes disparues durant le conflit armé qui s'est achevé en 80. Des propositions balayées d'un revers de main par Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain a demandé que l'on fasse table rase du passé pour se concentrer sur l'avenir. Et la réunion s'est ainsi achevée avec 2 heures d'avance.
Le Sénégal a depuis jeudi un musée de facture internationale, le musée des civilisations noires. 14 000 mètres carrés pour exposer et conserver dans d'excellentes conditions des œuvres venues du monde entier. Et cela tombe bien, fin novembre, Emmanuel Macron s'est dit favorable à un retour sur le continent de plus de 80 000 œuvres pillées en Afrique avant et après la colonisation. Notre correspondant à Dakar, Guillaume Thibault, a assisté à l'inauguration du musée.
Cette naissance est une fierté pour le recteur de l'université Cheikh Diop, Ibrahim Atioub, car il a fallu 52 ans pour que le MCN voie le jour.
Nous y voilà, pour un nouveau départ, de nouvelles conquêtes au service de l'humain, avec l'érection en terre africaine du musée des civilisations noires.
Merci. Le président Macky Sall a saisi l'occasion pour appeler l'État français à véritablement lancer le processus de restitution des œuvres pillées, en ouvrant un dialogue.
Nous savons les enjeux liés au sujet. Je souhaite que l'acte posé par le président Macron ouvre la voie d'un dialogue serein et apaisé sur le rapatriement du patrimoine africain.
Pour l'invité d'honneur de cette cérémonie, le président des Comores, Azali Assoumani, l'Afrique doit désormais pouvoir vivre de ses œuvres d'art.
Ce musée ouvre à l'Afrique une nouvelle ère, celle de la reconquête de son patrimoine artistique et culturel, qui doit être pour nous aussi un levier de croissance économique comme il le fut pour les autres.
Le musée des civilisations noires sera donc certainement au cœur des questions des restitutions. L'outil est flambant neuf, il faut désormais le roder pour en faire un musée référence.
Raphaël Glucksmann, il est temps de restituer aux pays africains tout ce qu'on leur a pillé comme œuvre d'art.
Non, mais surtout, il faut comprendre ce qu'était la colonisation et ce pillage. C'est-à-dire qu'on a expliqué à des peuples qui n'avaient pas d'histoire, qui n'avaient pas de culture, et dans le même temps, on les pillait de leur histoire et de leur culture. Et donc, c'est extraordinairement important, la naissance de ce musée, parce que c'est en fait se réapproprier sa propre culture, c'est se réapproprier l'idée, eh bien, d'une histoire, c'est fondamental. Et donc, dans ce cadre-là, même si ça pose des problèmes immenses, en réalité, il faut commencer ce processus. Et ce processus, il doit se faire autour du dialogue. Et ça va pas être simple, parce que les statuts des œuvres sont extrêmement complexes. Et donc, mais en tout cas, ce qui est important comme geste, vous avez vu que je tape souvent sur notre président Emmanuel Macron, mais en l'occurrence, je pense qu'il a lancé une initiative qui est importante. Et donc, il faut voir comment on va le faire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument, eh bien, rétablir cette vérité, qui est qu'il y avait une histoire avant la colonisation, qu'il y avait une culture, et qu'il y a eu une forme, eh bien, de négationnisme colonisateur qu'il faut réparer.
On va terminer avec un sujet plus léger. Football, il était le favori, c'est le Croate Luka Modric, 33 ans, qui a remporté lundi soir le Ballon d'Or 2018. Le joueur du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, finaliste de la Coupe du Monde avec la Croatie, s'est imposé devant le Portugais Cristiano Ronaldo et le Français Antoine Griezmann. Les réactions à Madrid, Pierre Chaperon.
Ici, le Ballon d'Or est une habitude. Pour la troisième fois consécutive, c'est un joueur du Real qui reçoit la récompense. Et pour Pedro, supporter du club, Luka Modric était bien le meilleur cette année.
Il le mérite. Je crois qu'il était le plus régulier. Pendant le mondial, il a été l'un des meilleurs et il a gagné la Ligue des Champions, qui est ce qui compte le plus pour remporter le Ballon d'Or.
Même sentiment de la part de Pablo pour ce trentenaire. Modric est à la base des succès du Real et de la Croatie cette saison.
Je crois que c'est le cerveau dans une équipe. Et bon, qu'un type qui vient des Balkans, qui était là où il était, qui arrive là où il est, oui, je pense que son âge et son parcours ont bien influencé.
Oui, mais voilà, difficile pour les supporters de l'Atlético de Madrid, le club rival, de ne pas penser qu'Antoine Griezmann méritait plus cette récompense. C'est le cas de Carlos.
Il a gagné le Mondial et la Ligue Europa. Il a fait une très bonne saison avec son équipe et c'est le leader de l'Atlético. Alors, il ne gagne pas cette année, mais il le gagnera une autre année, c'est sûr.
Rendez-vous donc l'année prochaine pour le Français. Qui sait ce qui lui reste à faire. Pendant ce temps, Luka Modric ramène le Ballon d'Or au Real pour la 8e fois en 18 ans.
Raphaël, vous aimez le foot. Modric, Ballon d'Or, c'est mérité ?
Oui, moi je suis un supporter de l'équipe de France, mais le fait est que j'adore Luka Modric. Je pense que c'est un joueur non seulement extrêmement beau à voir jouer, mais en plus super efficace, et qui, oui, il le méritait. Si on prend toute la saison, honnêtement, et même si on prend la Coupe du Monde, c'était le meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'était le plus régulier, il sortait des performances à chaque fois qui étaient bluffantes. Il y a, en plus, je trouve, dans la manière dont il joue, dans ses passes, dans ses frappes, dans son attitude, quelque chose qui est une forme d'hymne au football que moi j'aime, et en plus, ça couronne quand même ce football yougoslave qui est absolument fascinant. Enfin, moi, j'ai été élevé au football avec Safet Susic, avec ce rapport au ballon et à la passe et à la technique qui, à mon avis, est le foot au sens strict. Et quand on voit une nation comme la Croatie, qui est quand même un petit pays, produire des joueurs aussi talentueux et de manière répétée, c'est-à-dire que déjà en 98, ils avaient une génération absolument fascinante, et là, à nouveau, ils vont en finale de la Coupe du Monde, et ils déméritent pas face à la France, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quelque chose de fascinant, ils méritent le Ballon d'Or, même si on peut être déçu pour Griezmann.
Et il faut noter que Kylian Mbappé, quatrième au classement du Ballon d'Or, s'est consolé avec le premier trophée Raymond Kopa, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans.
Oui, et puis lui, il va le gagner, le Ballon d'Or. Ça, on le sait. C'est écrit. Il en gagnera plusieurs. Donc, il faut pas s'en faire pour Kylian Mbappé.
Raphaël Glucksmann, est-ce que votre livre Les Enfants du Vide est la plateforme de Place Publique, ce mouvement politique que vous venez de lancer avec l'économiste Thomas Porcher et l'écologiste Claire Nouvian, la fondatrice de l'association Bloom qui lutte notamment contre la pêche en eau profonde?
Non, parce que le projet de Place Publique, on va l'écrire, on est en train de le co-construire avec des experts, avec des associatifs, avec des élus locaux. Mais ce livre, pour moi, en fait, c'était un moment de tournant. C'est-à-dire que je suis arrivé à une étape dans ma pensée où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas écrire un quatrième livre sur quelque chose d'autre? C'est quoi comme sujet? Et en réalité, si je pense et je pense chaque mot qu'il y a dans ce livre, je ne peux que ensuite m'engager dans l'action collective si je pense que la crise est aussi grave et que les nécessaires changements doivent être aussi profonds. Et donc, c'est pour moi, c'est l'étape vers la création d'un mouvement politique. Mais la plateforme du mouvement, eh bien, elle sera enrichie de réflexions qui ne sont pas que les miennes. Vous savez, Place Publique, c'est les initiales, c'est PP, c'est pas RG, comme Raphaël Glucksmann, et c'est donc très différent d'En Marche, comme Emmanuel Macron.
Alors, qui comptez-vous rassembler autour de vous? Comment et pourquoi faire?
Ben nous, dans Place Publique, on invite tout le monde à venir. C'est-à-dire que c'est très simple, si à partir du moment où on se reconnaît sur les principes qui ont été énoncés, c'est-à-dire les principes de transformation écologique, sociale et démocratique de notre société, eh bien, on est les bienvenus. Il n'y a pas de videur de boîte de nuit qui regarde si les baskets sont assez à gauche ou pas assez à gauche. On invite tout le monde à venir, et en particulier, on va s'appuyer sur les gens qui sont déjà engagés. On va pas inventer les engagements. Partout en France, il y a des gens qui s'engagent dans les associations. Il n'y a jamais eu autant de monde qui a rejoint les associations de loi 1901. Et dans le même temps, les bancs des partis politiques sont vides. Donc ça veut dire qu'il y a un problème non pas avec le manque d'engagement des Français, mais avec le système des partis politiques et la manière dont ils conçoivent ces engagements. Et donc il y a comme ça un appel, on veut créer un mouvement de masse, on structure absolument partout en France. Pour le moment, il y a 15 000 personnes qui se sont inscrites pour devenir membres. On espère être très rapidement 50 000 puis 100 000. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, on va discuter avec les forces politiques qui existent et qui sont sur le même logiciel politique et idéologique. On va leur dire, mais pourquoi avoir 4 listes, par exemple, aux européennes? Pourquoi ne pas en faire qu'une? Si on partage les mêmes principes, alors venons, discutons des idées, formulons des propositions, et ensuite on verra.
Mais vous réfléchissez à déposer une liste pour les élections européennes?
On veut qu'il n'y ait qu'une seule liste aux élections européennes. Qu'une seule liste à gauche de Macron et... hormis la France Insoumise, vraisemblablement, qui ne voudra pas venir.
Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann, d'avoir été notre invité. Il faut lire Les Enfants du Vide. C'est publié chez Alary Éditions. Merci à Stephen Hersley qui a réalisé cette émission. Bon week-end à tous.